La mission finale pour sauver l'humanité a échoué. Mathilda, l'astéroïde de 110 km de diamètre, va percuter la Terre dans exactement 3 semaines. Le compte à rebours pour la fin du monde est donc lancé, mais il se fera bien entendu au son de vos classiques rock préférés.
Juste la fin d'un monde, une émission de radio sur l'écologie politique, avec des entretiens et des extraits de films et de musique.
Sans contexte, l'accélération est le maître mot de l'année qui vient de s'écouler. On entrevra ici nombre d'occurrences, les plus variées qui soient, que nous avons relevées dans les domaines économiques, technologiques et scientifiques, employées en substitut ou en renfort à celui d'innovation. Par exemple, l'accélération de l'innovation. On reconnaît là des mots de la crise à laquelle il faut s'adapter d'urgence, d'où l'accélération ou périr. Assurément, aucun État n'a planifié l'épidémie, sous-produit pervers de la société industrielle et subi depuis un an par leur population. Mais tous les États planifient des scénarios de crise afin de faire face aux éventualités soudaines, brèves ou durables. Et tous ont appris à saisir l'occasion que leur offrait la crise, l'épidémie, pour accélérer des tendances. Comprenez des plans, des projets, des entreprises, mûries et engagées de longue date dans leur think tank, leurs services administratifs, leurs forums, leurs colloques, leurs réunions interministérielles ou intergouvernementales. C'est ainsi qu'à l'occasion d'une crise, une certaine quantité d'accélération entraîne un saut qualitatif et une mutation. On connaît la théorie quant à l'application pratique. Nous la subissons depuis un an. Pourquoi ce bourrage de crâne qui nous gave de Covid, matin, midi et soir? Pense-t-on qu'en un demi-siècle, l'État, Macron, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, soient devenus si soucieux de notre santé qu'ils n'hésitent pas à suspendre l'économie, et d'ailleurs, tout le pays avec, quand ses anciens maîtres, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, se montraient d'une cruauté implacable envers la chair à machine. D'où une interrogation immédiate. L'économie est-elle vraiment suspendue ou au contraire en suractivité afin de forcer le passage au numérique et aux technologies convergentes? Merveilleuse aubaine que ce virus qui remet le gouvernement du pays entre les mains d'un conseil de défense dont les réunions hebdomadaires sont classées secret défense, qui remet aussi le pays dans un état d'urgence en voie de chronicisation depuis les attentats islamistes, qui vide les rues, les villes, les routes, qui assigne la population à domicile et à couvre-feu, qui interdit et traque toute vie sociale, qui suspend les libertés de réunion et de circulation, qui ferme les lieux et barre des routes où ces libertés s'exerçaient, qui étouffe tout débat hors des filets sociaux, ray, réseau, toile, laissant ainsi toute liberté au pouvoir et nulle opposition, pour imposer d'un coup ce qu'il veut obtenir, ce qu'il voulait obtenir à la longue. Cette vitesse est une violence qu'on nous fait sous prétexte d'urgence, afin de procéder d'un bond, d'une rupture, à la mutation forcée de nos sociétés, de nos vies, de nos personnes. La technocratie, en effet, ne peut accroître sa puissance sans en révolutionner constamment les moyens, et donc l'ensemble des rapports sociaux. Et ainsi, tout ce que nous vivons en présentiel est éloigné en vision illusoire par l'autorité, qui peut à tout moment en interrompre les flux ou en falsifier les images. Voici un état détaillé de cette année de mutation.
À la peur. Sa peur a une odeur plus forte que les aiguilles de pin que foulent ses pieds nus sur le sentier de la forêt. La terre fume après la pluie de printemps. Son propre cœur est plus sonore que le meuglement du bétail sur le pré communal. La vieille femme porte un panier d'herbes et de racines qu'elle a tête arrachée. Il semble à son bras lourd comme le temps. Ses pieds sur le sentier sont les pieds de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère. Cela fait des siècles qu'elle marche sous ses pins, sous ses chaînes et ses pins, qu'elle cueille des herbes et les rapporte pour les sécher sous les avancées du toit de sa chaumière sur le pré communal. Depuis toujours, les gens du village viennent à elle. Ses mains sont des mains qui guérissent. Elles peuvent retourner l'enfant dans le ventre de sa mère. Sa voix murmurante charme la souffrance et la charse, ou berce l'insomniaque jusqu'au sommeil. Elle croit qu'elle a du sang de fée dans les veines, le sang de l'ancienne race, qui élevait des pierres vers le ciel et ne construisait pas d'église. À la pensée de l'église, elle frissonne. Elle se souvient de son rêve de la nuit précédente. Le papier cloué sur la porte de l'église, qu'elle ne pouvait pas lire. Qu'est-ce que c'était ? La proclamation d'une chasse aux sorcières ? Elle se passe la main sur les yeux. Ces jours-ci, la vision est un malheur. Ses rêves sont hantés par les visages de femmes torturées. Leurs yeux sont sommeil, leurs paupières lourdes, tandis qu'elles doivent marcher, monter et redescendre, nuit après nuit, affaiblies par la faim, les corps rasés et offerts en spectacle à la foule. Qu'ils étaient doux en Angleterre, où les sorcières étaient seulement pendues. Elle pense au récit, murmura des réunions venant d'Allemagne et de France, et parlant de mécanismes pour leur écraser les os et leur désarticuler les membres. De veines déchirées et de sang répandu là en poussière, de chair carbonisée, tandis que les flammes s'élèvent autour du bûcher. Pourrait-elle garder le silence sous sa torture ? Ou se briserait-elle, avouerait-elle n'importe quoi, dénoncerait-elle comme ses compagnes sorcières ? N'importe qui, toutes celles qu'ils veulent, elle ne sait pas. Elle espère qu'il ne le saura jamais. La vieille femme fait le signe de bannissement de sa main gauche et continue son chemin. Peut-être le papier cloué du rêve était-il quelque chose de complètement différent. Mais il avait une mauvaise odeur. En closure, vont-ils diviser la terre commune, construire des barrières, détruire les petites chaumières comme la sienne ? Elle sent un coup de poignard sous son corsage et s'assoit, à peine capable de respirer. Oui, c'était ça. Que va-t-elle faire ? Qui parlera pour elle ou l'acceptera chez lui ? Elle n'a pas de mari, pas d'enfant. Autrefois, le village aurait protégé, mais maintenant, les prêtres ont bien fait leur travail. Les malades la craignent, même quand ils viennent lui demander son aide. Les villageois ont peur les uns des autres, les mauvaises récoltes, les loyers des terres, le prix de la nourriture qui augmente toujours. Il y a trop de rats à gratter le même petit tas de grains. Et les prêtres et les prêcheurs sont toujours au-dessus pour se l'accaparer. Mais il y a eu des soulèvements à l'ouest et au nord contre les enclosures. Il pourrait y en avoir ici. Elle se retourne et regarde les profondeurs de la forêt. Un moment, elle est tentée de s'y enfoncer, de suivre le chemin plus loin qu'elle n'a jamais été. Certains ont dit que ceux de l'ancienne race vivaient encore au centre caché de la forêt. L'abriteraient-ils ou trouveraient-ils des campements de gens sans maître, des bohémiens dehors la loi ? De ceux qui ont été expulsés comme elle de la terre. La vie serait-elle plus libre sous les arbres ? Aurait-il besoin d'une guérisseuse ? Et surgirait-il un jour des bois et des landes d'une armée de dépossédés pour détruire les barrières des seigneurs, les châteaux, les églises, pour restaurer la liberté de leur propre terre ? Elle reste immobile. Mais finalement, elle remet son panier à l'épaule et repart vers le village. La jeune Jaunée au moulin est prête d'accoucher. Et la vieille femme sait que ce sera une naissance difficile. Elle aura besoin des herbes qu'elle ramène dans ce panier. Elle a peur, mais elle continue à marcher. Nous avons toujours survécu, se dit-elle. Nous survivrons toujours. Elle se le répète encore et encore, comme une incantation. Nous survivons encore, dans la culture de la distance. Pour combien de temps ? Nul ne le sait. Mais pour transformer cette culture intelligemment, nous devons la comprendre, trouver ses racines, connaître son histoire. Non que la mise à distance découle linéairement d'un événement ou d'une période historiquement particulière, mais parce que le passé est toujours présent dans le vivant.
Au commencement était le rêve. Puis le rêve devint espace. Infinité de lignes, de courbes, de formes. Puis l'espace de 20 ans, et ce fut alors le temps du rêve. Le monde des humains et celui de toutes les autres créatures ne formaient qu'une seule et même réalité. Au temps du rêve, les humains comprenaient le langage des oiseaux, et l'un d'eux disait « Je suis le messager des étendues bleu azur. Observe-moi au-delà de la surface, et je t'apprendrai l'harmonie. Puise de mon énergie limpide, et tu connaîtras la plénitude. » Au temps du rêve, la terre était recouverte de forêts, et les arbres étaient les meilleurs compagnons des hommes. Ils les enlaçaient de leurs branches pour les protéger du soleil et des bêtes sauvages. Ils les consolaient de leur écorce vive quand l'esprit des hommes s'égarait. L'un de ces arbres reliait la terre et le ciel. On l'appelait Yggdrasil, le roi des mondes. On le redoutait tant ses colères étaient redoutables, tant il dominait l'univers. Qu'est devenu le temps du rêve? Aurions-nous perdu à jamais la mémoire des formes premières, de ces signes gravés dans la pierre qui nous parviennent d'un passé d'avant l'histoire? Il est temps d'apprendre de nouveau à déchiffrer l'essentiel, les courbes, les formes, les traits, les lisières, les crêtes, les rivages et les lignes d'horizon. Quelque part dans nos cerveaux subsiste la mémoire des gestes archaïques et des chemins primitifs. Elle est en nous l'étincelle des premiers temps. Le temps du rêve est tout près, en lisière de réalité, au beau milieu du monde, à nos côtés.
La Covid-19 n'est pas issue de la génération spontanée. Il n'est pas un fléau de Dieu, ni l'instrument d'un complot, ni un simple accident de parcours dans le fleuve faussement tranquille des sociétés industrielles. L'histoire des coronavirus, de leur origine et de leurs retombées sanitaires, avait déjà fait l'objet d'études et d'analyses qui laissaient entrevoir la pandémie à venir. Celle, précisément, dans laquelle nous sommes embarqués aujourd'hui et qui nous dicte ses propres contraintes. Les pressions et perturbations écologiques causées par l'homme mettent toujours plus d'agents pathogènes animaux en contact avec les populations humaines, tandis que la technologie et le comportement humain propagent ces agents pathogènes de plus en plus largement et rapidement. En d'autres termes, les épidémies liées aux nouvelles zoonoses, ainsi que la récurrence et la propagation des anciennes, ne sont pas simplement ce qui nous arrive, mais reflètent ce que nous faisons. Au sein de tout ce que nous faisons, deux choses doivent retenir ici notre attention. La déforestation et l'élevage industriel, qui sont les principales causes évoquées de l'expansion des zoonoses, ces maladies issues du monde animal et qui touchent l'être humain, et qui vont du sida jusqu'au Covid-19 en passant par le virus Ebola. La déforestation participe également à la destruction des communautés autochtones, à l'effondrement de la biodiversité et au réchauffement climatique. Ce dernier augmente la fréquence des incendies gigantesques détruisant les forêts au risque de devenir un processus auto-entretenu, avec, comme apothéose macabre envisageable, la réanimation des virus assoupis dans le pergélisol et qui, en comparaison, feront passer le Covid-19 pour une grippe anodine. Derrière la déforestation et l'agro-industrie, comment ne pas discerner l'urbanisation outrancière et la destruction de la paysannerie à l'échelle mondiale ? Et la volonté concomitante d'agglutiner les masses urbaines, les masses humaines dans des mégalopoles connectées, exclusivement nourries par l'industrie agroalimentaire connectée et rendues définitivement dépendantes des pouvoirs industriels connectés. Cette volonté, à son tour, doit être interprétée comme l'expression ultime de la rationalité instrumentale propre à l'industrialisme et à présent disséminée sur la surface entière de la Terre. L'ironie de cette histoire étant que ces masses urbaines y finissent par apparaître à la fois comme les créatrices inconscientes et insouciantes et comme les principales victimes des coronavirus. Cette ironie cruelle illustre parfaitement le concept de décalage prométhéen, introduit par Günther Anders dès 1956, dans le premier opus de son Obsolescence de l'homme. Il désignait par là l'écart monstrueux entre les capacités industrielles de fabrication et les capacités humaines de représentation et de perception. Comment l'individu lambda pouvait-il savoir que la consommation, en France, de produits contenant de l'huile de palme ou des poulets industriels nourris au soja OGM made in Brésil prédisposait son oncle ou sa mère à finir ses jours sous respirateur artificiel? Comment, dès lors, pourrait-il s'en tenir pour responsable? Et pourtant, c'est la raison pour laquelle Anders nous invite à des exercices d'élongation morale, afin d'élever notre représentation et notre perception à la dimension de nos capacités de fabrication. Pour certains virologues, la crise va durer 6 mois, 1 an, 10 ans, plus, avec des implications sanitaires, sociales et politiques qui, pour rester imprévisibles, promettent de ne pas verser dans la réjouissance. En attendant, le confinement et son désœuvrement forcé peuvent favoriser aussi bien le nihilisme qu'une forme constructive de renaissance. À titre personnel, je n'ai pu empêcher la rémémoration entêtante des mots tranchants tenus il y a longtemps par Thomas Bernard. Nous n'avons rien à dire, sinon que nous sommes pitoyables. Ce que nous pensons a déjà été pensé. Ce que nous ressentons est chaotique. Ce que nous sommes est obscur. Nous n'avons pas à avoir honte, mais nous ne sommes rien et ne méritons que le chaos. Désirons-nous, comme nos gouvernants ou comme ceux qui complotent ardemment pour conquérir la position, redémarrer à quelques amendements près la méga-machine? Un nouveau capitalisme, propose notre ministre de l'économie. Mais quel capitalisme pour limiter l'accumulation de l'argent en se confinant derrière la frontière? Demeurons-nous suspendus en compagnie des géants de l'angoisse au désastre que cette méga-machine ne manquera pas de provoquer à nouveau, l'un après l'autre, jusqu'au chaos final? De combien de catastrophes industrielles, de pandémies, de pénuries, de guerres aurons-nous besoin pour comprendre et pour agir en conséquence, dans l'obscurité d'un monde que nous seuls pouvons éclairer d'un sens alternatif et d'un autre être ensemble, entre humains et avec les non-humains? Nous obtiendrons demain que ce que nous sèmerons aujourd'hui. Si nous persévérons à être guidés par la cupidité et à semer la mort, nous récolterons l'agonie de l'humanité, et la honte ne nous sera bientôt plus d'aucune utilité.
C'était « Juste la fin d'un monde », une émission sur l'écologie politique. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.